Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du projet Oxford. Nous allons voir dans cette session comment on fait de l'intelligence artificielle, comment on la câble dans les applications et quelles sont les grandes API à attaquer pour mener à bien votre projet Oxford. Et pour ça, j'ai invité mon ami Jean-Sébastien Dupuis ici présent qui va effectivement nous parler en long, en large, en travers de comment on intègre le projet Oxford dans une application. Bonjour Jean-Sébastien, qu'est-ce que tu peux nous dire à haut niveau sur le projet Oxford ?
Alors, le projet Oxford, c'est simplement un set d'API, donc des web services en mode REST que vous allez pouvoir utiliser dans vos applications. Donc, c'est complètement agnostique à la plateforme, que ce soit sur Windows, Android ou iOS, vous allez pouvoir donc les utiliser. Et ça va permettre de donner de l'intelligence à vos applications, finalement, à la portée de tout le monde. On n'a pas besoin, finalement, de comprendre l'algorithme qui est derrière. C'est du prêt à l'emploi directement dans vos applications. Alors, trois grandes briques finalement techniques au niveau de ces API. La première, c'est tout ce qui va être vision, reconnaissance d'image et reconnaissance vidéo à l'intérieur de votre application. Speech, c'est la voix. Donc, on a aujourd'hui une brique principale qui va être de la reconnaissance et de la synthèse vocale pour les applications. Donc, à noter qu'on savait très bien faire ça sur nos plateformes en natif. L'intérêt, c'est d'extraire notre savoir-faire et de le proposer finalement à l'extérieur de la plateforme Windows. Et puis, la dernière brique, c'est langage. C'est un set d'API qui va être propre à tout ce qui est analyse sémantique de texte. Et on abordera beaucoup plus en détail tout à l'heure ce sujet avec Louis. Alors, avant d'aborder finalement plus techniquement les projets, je vais partir sur la reconnaissance d'image, donc une des briques fondamentales. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans la documentation, non seulement vous avez toute la documentation liée aux API, mais vous avez des démonstrations. Donc, si vous avez besoin d'analyser si c'est pertinent par rapport à votre application ou pas, avant finalement de basculer côté code, vous pouvez manipuler les API avec des images qui sont celles des démonstrations, mais également des images que vous allez pouvoir télécharger sur le site et analyser. Alors, la reconnaissance d'image, au départ, historiquement, ça avait été fait pour le moteur de recherche de Bing. Et on a extrait finalement ce savoir-faire pour le fournir à tout le monde. Alors aujourd'hui, une des briques fondamentales, ça va être par exemple de catégoriser les images. Donc c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'on a une personne qui est en train de nager. En complément, on peut savoir si c'est un clip art, si c'est une image, si c'est du dessin. On va être également capable d'extraire les couleurs qui sont propres à l'image. Et un point intéressant, on est capable de récupérer l'âge et le genre de la personne qui est affichée à l'écran. Donc assez pratique pour un certain nombre de scénarios.
Alors très bien, on a vu les différentes API à haut niveau. Comment on fait maintenant, Jean-Sébastien, pour les implémenter dans nos applications ?
Eh bien simplement, donc la première étape, c'est d'aller récupérer une clé de produit. Donc là, je suis déjà logué sur ce compte. J'ai déjà créé des clés de produit, mais tu peux récupérer des clés de démonstration que tu vas directement utiliser, qui sont gratuites. Après, si tu veux aller plus loin, il y a une facturation. Mais en tout cas, pour regarder un petit peu comment ça se passe, il y a ces clés de démo. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir soit appeler les web services, soit, moi je suis un peu plus feignant, et le portail a mis à disposition pour moi en fait un certain nombre de SDK prêts à l'emploi que je vais pouvoir utiliser. Donc, si on regarde bien, je vais avoir à chaque fois des SDK pour Windows, pour Android, parfois pour iOS. Voilà, ça va venir au fur et à mesure, on est en train de documenter. Et là, je te propose de faire un test avec les API d'émotion. Donc, j'ai téléchargé déjà ce SDK Windows pour tout ce qui est émotion, et je l'ai rajouté à mon projet Windows. Alors, l'émotion, ça va me permettre d'extraire depuis une image, finalement, le visage dans une photo et de savoir quelle émotion est en train d'exprimer cette personne. Alors, honnêtement, une fois que j'ai utilisé et rajouté ces lignes de code, j'ai plus qu'à taper deux lignes de code, une qui me permet d'instancier finalement mon web service et la deuxième qui me permet simplement de reconnaître mon image. Donc après, j'ai pas mal de traitements pour capturer l'image et l'envoyer, mais en tout cas, l'utilisation de l'API en elle-même est très simple. Alors, on va lancer quand même l'application. J'ai mis un point d'arrêt pour vous montrer à quoi ressemblaient les émotions. Voilà, bonjour. Voilà, on va essayer de faire un joli sourire. Et je vais tomber, théoriquement, si tout se passe bien, sur le point d'arrêt. Et on voit qu'on a des émotions qui sont retournées. Alors, avant ça, j'ai mon visage qui a été détecté. Donc, j'ai des points dans ma photo qui me permettent finalement de savoir où est mon visage. Ça va être pratique. Par exemple, si je veux faire un rectangle sur ce visage, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et la deuxième chose, c'est les émotions à proprement dites. Et on voit qu'il y a 8 émotions qui sont listées et j'ai une pondération. Donc là, en l'occurrence, à 99%, il est sûr que je suis heureux. Donc on va continuer. J'ai rajouté un petit peu de logique pour afficher le rectangle et simplement afficher happiness sur l'application. Donc quelque chose de très très simple à utiliser dans vos applications. Alors finalement, ce qu'on a fait au niveau de l'application Windows, eh bien, on peut très bien le faire pour Android. Donc là, je suis dans Android Studio. Alors pour le coup, je n'ai pas créé l'application, j'étais encore plus feignant. J'ai récupéré directement la démonstration du site web. Donc on a plein d'exemples, donc il ne faut pas hésiter à les utiliser. Et là, je vous propose un autre exemple, ça va être de la reconnaissance de visage. Donc je lance l'application qui va se lancer dans un émulateur particulier.
Que je reconnais bien, oui.
Alors c'est l'émulateur Visual Studio, mais pour Android. Et rien ne vous empêche de l'utiliser dans Android Studio. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Et on voit mon application qui s'affiche à l'écran. Alors, je vais aller détecter une image de ma galerie. On va prendre celle-ci, par exemple. Et on va faire de la détection. Alors, ma photo, en l'occurrence, va être détectée. Ah. Intéressant. Tu as vu qu'on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que je n'ai pas qu'un seul visage. Mmh. Là, j'ai deux visages qui ont été reconnus, donc on peut reconnaître multiples visages dans une photo. Et je reconnais non seulement la position du visage dans la photo, mais également le genre de la personne et également son âge, voilà, qui peut être intéressant. Donc, on a vu finalement déjà de la reconnaissance en termes d'image. Je te propose de voir un petit exemple de reconnaissance vidéo. Donc, pour ça, on va aller sur le site web. On va retourner sur les services. Et ça, c'est très récent. Alors, on va pouvoir faire également de la reconnaissance de visage dans une vidéo, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire de la stabilisation. Alors, voilà, tu as certainement une GoPro, par exemple, tu t'es amusé à prendre des vidéos, c'est pas forcément toujours bien carré et bien stable.
Non, rarement même.
Voilà, et bien l'intérêt, c'est que tu envoies ta vidéo finalement à ce service, il va te la stabiliser, donc on le voit en direct ce que ça donne, et c'est assez bluffant le résultat que ça peut nous permettre de fournir. Alors avant, ça s'appelait Hyperlapse, maintenant c'est directement dans le projet Oxford, et voilà, à user et abuser sans modération.
Bien, alors tu nous as montré la stabilisation vidéo, tu nous as montré les émotions, tu nous as montré la détection de visage et tu as évoqué au tout début le fait qu'on puisse effectivement bénéficier des services d'apprentissage du langage.
Exactement.
Est-ce que tu peux nous en parler plus de Louis ?
Alors, c'est Louis, exactement. L'idée, c'est de récupérer en fait des informations syntaxiques dans une phrase. Alors, je m'explique. On parle généralement en langage naturel à une application, en tout cas, c'est le but. Eh bien, on va être capable d'extraire finalement d'un langage naturel eh bien, des actions, des commandes qui sont propres dans une application. Un petit peu comme Cortana, finalement, exactement de la même manière. Mais l'intérêt, c'est que ce qui est intégré aujourd'hui dans Cortana, on va pouvoir eh bien, le déplacer dans des applications qui sont, par exemple, sous Android ou iOS.
Oui, parce que c'est du reste, donc on peut l'attaquer par le web, par toutes les applications qui sont disponibles.
Exactement.
D'accord.
Alors, comment ça marche? Là, on va avoir un petit peu d'apprentissage qui va être proposé. Alors, imaginons que je souhaite faire une application qui va être du monitoring d'activité, donc un activity tracker, par exemple, démarrer une course à pied, arrêter une course à pied, ou par exemple, calibrer pour monitorer mon rythme cardiaque et faire en sorte d'avoir une alerte si je dépasse les 140 pulsations minutes. Eh bien, je vais avoir des commandes vocales, par exemple, auprès de mon application. Ces commandes, je vais pouvoir utiliser de la reconnaissance vocale qui va me donner du texte, mais le texte en lui-même, il n'a pas de signification. Je ne suis pas capable d'en faire grand-chose. Alors, une fois que j'ai ce texte, je vais l'envoyer à Louis et Louis va m'extraire finalement la syntaxe avec les actions qui sont propres à mon application. Alors, comment je fais ça? J'arrive sur ce portail. Ici, j'ai défini dans le portail les activités qui sont propres à mon application, donc les commandes qui sont propres à mon application. Donc j'ai Stop Activity, Start Activity et ici Monitoring du rythme cardiaque. Et j'ai également une brique qui s'appelle Activity Type et ça va me permettre eh bien, de savoir si c'est une activité de type, une activité par exemple de type jogging, de type est-ce que c'est natation, ainsi de suite. Voilà. Alors une fois que j'ai défini finalement ces intentions, ces actions et ces entités, il ne me reste plus qu'à renseigner eh bien, ce moteur de machine learning. Donc là, j'ai de l'apprentissage. Je vais taper finalement des lignes de commande, ben, des lignes de commande du texte qui auraient pu être saisies finalement dans mon application.
Les commandes naturelles.
Exactement. Par exemple, start jogging. Alors, je vais lancer cette recherche. Lui, il va me mapper comme quoi c'est bien une activité de type démarrage. Et par contre, il ne m'a pas reconnu que j'avais une activité de type jogging dans cette phrase-là. Eh bien, pas de problème. Je vais la surligner et je vais renseigner comme quoi c'est une activity type de type jogging.
Donc là, tu entraînes en fait ton moteur.
Et j'entraîne mon moteur. Alors là, je l'entraîne à la main. Ça peut prendre un petit peu de temps, effectivement. Après, si vous avez déjà des phrases prêtes à l'emploi, vous pouvez aller lui soumettre un grand nombre de phrases d'un seul coup. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que j'ai créé mon modèle, eh bien, je vais pouvoir le publier sous forme d'API. Je vais pouvoir mettre à jour mon modèle d'application. Donc là, j'ai une query, je vais pouvoir commencer à taper ma phrase, par exemple, start tracking walk. Et donc, je vais soumettre cette query. Ça me retourne une JSON, ça tombe bien, c'est un service REST. Voilà. Et je vais avoir ce type de résultat. Ici, j'ai ma query, start tracking walk. J'ai les actions. Donc là, à 80%, il sait que c'est une activité de type démarrage. Et je vais avoir l'entité. Donc là, il m'extrait finalement que c'est bien une marche que je suis en train de faire. Donc à partir de ce moment-là, finalement, j'ai plus qu'à mapper ce JSON à des actions qui sont réelles dans mon application. Et ça, ça va être vraiment très pratique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce modèle, finalement, va continuer à apprendre au fur et à mesure. Et puis, vous allez avoir un certain nombre de phrases qui vont être proposées par les utilisateurs. Et bien, toutes ces phrases qui vont avoir un petit peu plus de mal à être interprétées par Louis, vous allez pouvoir les récupérer directement dans le portail, dans la rubrique Suggest. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a mis « Start driving a poney ». Voilà, c'est assez bizarre. Eh bien, je vais pouvoir valider si cette phrase, c'est bien « non ». C'est bien le cas, pour le coup, ça n'a aucun rapport avec mon application. Et ça va être assez pratique. Donc, c'est vraiment un moteur qui va apprendre au fur et à mesure. Et je vais pouvoir le documenter vraiment au fur et à mesure. Et je n'ai pas besoin de changer l'API REST. C'est juste le modèle de machine learning qui est mis à jour au fur et à mesure. D'accord. Assez pratique.
Très bien. Eh bien, merci Jean-Sébastien. Donc, nous avons vu comment finalement générer de l'innovation avec le projet Oxford, notamment par des interfaces naturelles, par du machine learning et vraiment par des API qui sont pour le coup faciles d'emploi, faciles à utiliser et surtout en REST, donc qui sont déployables à travers une masse colossale de devices et de services. Un petit rappel cependant pour vous dire que tout ceci, tout le projet Oxford est déjà utilisé en interne par Microsoft à travers tous ces exemples d'applications qui sont affichés derrière moi, donc Skype, Bing bien entendu, Cortana et ainsi de suite. Et surtout parce que derrière, nous avons un certain nombre de call to action qui permettent effectivement d'aller télécharger tout ce dont vous aurez besoin pour créer votre premier projet avec Oxford. Voilà, merci et à bientôt.
Merci.